Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois pour l'excellente bière. On remercie également Cuisinic. Si vous avez besoin d'un meuble custom, allez voir ce qu'ils font sur Facebook et Instagram. Cette année, on commence les épisodes de Noël de bonne heure avec notre invité Jean-François Provençal, à qui on a fait subir un film, ou plutôt une vidange de Noël avec Hulk Hogan, Santa with Muscles. Comment ça va, les gars?
Super bien!
Wow! On commence à fêter Noël assez tôt cette année. Cet épisode-là va sortir le 24 novembre.
Exact.
Et normalement, là, on fait ça dans le cabanon virtuel cette année, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix. Puis ouais. À Noël, normalement, on a de la visite. Donc aujourd'hui, on a la grande visite, M. Jean-François Provençal.
Bonjour, salut Jean-François.
Salut Jean-Gabriel.
Ça va?
Oui, et toi?
Ça va super bien.
Cool.
Je vais commencer en disant que je suis un gros fan. Toute ma famille est un gros fan de Jean-François Provençal.
Ben écoute, merci, garde.
Moi, j'ai une petite question pour Jean-François. Est-ce que tu es un fan de lutte?
Oui.
Oui? Pour vrai?
Et là, ces temps-ci, je ne l'écoute plus vraiment, mais j'adore ça, écouter la lutte là, avec mes amis. Là.
Et plus précisément, est-ce que tu étais dans le temps un fan de Hulk Hogan?
Quand j'étais jeune, oui, là, parce qu'on m'avait acheté comme tu sais les petites figurines là, à Noël. À un moment donné, j'avais reçu l'affaire de lutte. Tu sais, t'avais comme des figurines vraiment dures, puis t'avais comme le ring, là, tu sais, mais j'ai comme pas vraiment suivi la lutte tant que ça. Mais je connaissais le personnage Hulk Hogan, là, tu sais, je sais c'est qui, puis j'ai été très déçu de lui, là.
Ouais, ben ouais, déçu. C'est par ses films, par ses films ou par sa sortie raciste qu'il avait faite, là?
Ben, ouais, non, mais ça, c'est sûr qu'effectivement, oui, non, oui. Mais, tu sais, d'habitude, il est quand même correct dans les films, tu sais, comme... Le film là, qui a fait une genre de babysitter, c'était funny, il jouait le tata, mais là, ça marchait crissement pas, non?
Ouais, ben.
C'est dégueulasse!
Ouais, tu nous as dit plutôt que c'était le pire film que tu as vu de ta vie, là?
Ouais, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, pour vrai.
T'as-tu vu, c'est quoi les autres films de Hulk Hogan que tu as vu pour le fun?
Il a joué dans Predator 1. Hein? Non, ça, c'était Sylvester Stallone. Attends, c'était.
Non, c'est Arnold Schwarzenegger.
Non, il a joué dans Predator. Que okay, oui.
Fais-tu un caméo, comme un Easter egg ou quelque chose? En tout cas, je n'étais pas au courant de ça.
Est-ce que j'aime où ça s'en va, moi?
T'es-tu en train de vérifier? Non,
peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Là. Attends une minute.
Je pense que oui.
Non. Oui. Non, il n'a pas joué dedans. Effectivement, il a joué dans une affaire comme de commando, me semble.
Il y a l'ultime menace.
Suburban Commando?
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Suburban Commando. Ben, en fait, il a joué dans beaucoup de séries B d'action.
Je ne suis pas un spécialiste d'Hulk Hogan, malheureusement.
C'est bien correct. Demain, parce que nous autres, on n'est pas spécialistes.
Non Hulk plus.
encore moins de lutte. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui tripe sur la lutte, puis nous autres.
Oui, c'est vrai, ça, étonnamment. Mais beaucoup, là. Tu sais, genre des fiers défenseurs de la lutte. Puis, tu sais, souvent, nous autres, quand on parle de lutte, ben d'un, c'est sans connaissance de cause, puis pour un peu bâcher les films de marde que des lutteurs ont fait.
Ouais. Il y a juste Dwayne, ton.
Sauf Dwayne. Il n'y a personne qui touche à Dwayne Johnson, ça. Personne.
J'ai une autre question, Jean-François. Est-ce que tu as l'habitude d'écouter des mauvais films pour le fun ou tu fais jamais ça?
Ça va m'arriver, mais il faut vraiment qu'il me soit recommandé. Tu sais, comme, check celle-là, il est tellement mauvais que c'est bon. Là, je vais le checker, puis je vais rire. Tu sais, mettons, à vos marques Party 2, oh my God. Ça, c'est bon de mauvais.
Holy shit, hey, c'est un rendez-vous.
Bon, là.
Écoute, un rendez-vous, mais... on fait ça au cabanon dans un an, peut-être, là, en été.
Moi, je suis le 1, il n'est pas bon non plus, je pense. Ça se peut-tu?
Ah non, le 2, non seulement il est pas bon, il est super raciste, là, comme il y a un personnage qui est chinois, puis il parle comme ça, là. Ming, ming, mong, wing, wing, wang, ming, ming, mong, ming, mong, ming, wang.
Me and you.
OK.
Pimpi?
Pipi?
No, pimpi. Ah, oh, Pimple, ben oui, c'est correct, je les ai vus ce matin.
OK. OK. Put tomorrow, no pity.
Tu sais, mettons, elle va dire, elle va faire wing, wing, wong, wing, bière, wing, bière, wing, wong, bing, bing, bière. Tu sais, puis là, t'es comme, ah, non, 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 non. Puis c'est un personnage important, là, qui est là dans beaucoup de scènes, là. Fait que c'est, non, non, c'est dégueulasse, là.
C'est supposé être drôle, mais ça, ça date de quelle année, ça? C'est l'année 2000, je pense?
Ça date de 2000, 2001, mettons. Ah, c'est pas supposé être drôle. Le film se passe, pour vrai, sincèrement, dans trois lieux, OK? Trois lieux. L'hôtel Le Pur à Québec. Il y a beaucoup de shots d'establishing. Tu sais, on voit l'hôtel Le Pur, un autobus. Ah, ouais. Il y en a beaucoup, là, genre 20. Okay? Ça se passe dans les corridors du Pur, mettons, à la maison au départ, puis après ça, à la piscine. Mais c'est les trois seuls lieux de tournage qu'il y a. Là. Tu sais, c'est comme, c'est dégueulasse. Là.
C'est boy. Non, non. Peut-être un film de cabanon.
Christ, 100%.
C'est malade que tu parles de ça, pour vrai.
100%.
Moi, je veux faire un épisode là-dessus.
Ah, certain. Ça va être plus le fun que Santa with Muscles. C'est, on va se dire.
Oui.
Que... Justement, on est rendu à la présentation du film. C'est un film de Noël américain de 96 avec le meilleur acteur de l'époque, Hulk Hogan. C'est d'une durée de 97 minutes. J'ai pas trouvé le budget. Je sais pas, les gars, si vous avez vu ça quelque part, mais
non, man, j'ai pas vu.
C'est sans aucun doute un flop commercial parce que ça a seulement fait 220 198 au box-office mondial. Fait que c'est pas fort. Là.
C'est pas, dégueulasse.
C'est sûrement une couple de millions de budget. Là. Il y a quand même Hulk Hogan dedans. Fait que, en tout cas, le synopsis va comme suit. À la suite d'un coup sur la tête, un millionnaire brut et égoïste se prend pour le Père Noël et se porte à la défense d'un orphelinat.
Hulk Hogan is Santa with an attitude.
Keep the muffin cookies warm.
Santa with some friends.
Leon! We want to be on!
Santa with a mission.
How are we supposed to get over this?
And most of all, he's Santa with muscle.
C'est réalisé par John Mulwalski, qui a réalisé des grands films, dont Richie Rich Christmas Wish, en 90. On a déjà parlé de ce film-là.
À plusieurs fois, ben, ça a été écrit, entre autres, par le même writer que Casper Meets Wendy, dont on a parlé il y a peut-être un mois et demi. Ouais.
OK, ouais. Deux grands films. Il a aussi réalisé...
Tabarnak, j'ai deux grands films.
Ouais, ouais. Sarcasme. Il a aussi réalisé Golden Christmas.
Pendant qu'il y a les infos.
C'est quoi le nom de chien?
Chanel.
Chanel?
Ouais, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom, là, c'est son ancien propriétaire.
Ben, c'est un correct nom, là.
Ben, je sais pas, tu sais.
C'est pas justifié. Il
s'appelle Chacha, Chachou.
Ah, il est bien beau. C'est un Shih Tzu?
C'est un Shih Tzu mélangé avec un... quelque chose d'autre. Mais là, on parlait du film. On n'est pas obligé de parler de mon chien.
Non, mais ton chien est quand même plus intéressant.
T'as droit à caméra dessus. On ne fera pas semblant qu'il ne se passe rien.
Il y a quand même un lien là, parce que le film A Golden Christmas, c'est un film de chien. C'est un film de Noël avec des Golden. C'est pas un Golden qu'on voit là, mais c'est pas grave. Puis c'est vraiment, c'est jamais vu, un film de Noël avec des chiens. Puis, c'est avec Bruce Davison qui a joué dans Titanic 2.
Oh!
Il a fait aussi Zombie Hamlet en 2012. C'est une comédie d'horreur de qualité discutable avec une petite apparition, dans laquelle il y a une petite apparition de Hulk Hogan. Puis, il faut dire que Hulk Hogan, sa carrière cinématographique, n'a jamais été vraiment au top. Tu sais, dans les années 90, il faisait des films, mais. Parce qu'il était encore dans lutte, puis il était super populaire, mais ses films n'étaient pas bons. Mais au courant des années 2000, ça a pris une petite drop. Là. Si on pense au film avec Hercule, je ne sais pas trop, là, en 2000.
Ouais, 2000, Little Hercules.
Then I embrace my destiny, and now it's time for you to embrace yours.
Je pense que les lutteurs font beaucoup de films pour les assurances, en fait, s'ils se blessent. Ouais. Ouais, il me semble que j'avais lu ça que. Ben, c'est parce qu'il n'y a comme pas vraiment d'assurance physique à la lutte, tu sais. Puis si tu te blesses, ben, t'arrêtes de travailler, tu sais. Fait qu'ils leur font faire des films parce que c'est comme une source de revenus. Ils vont faire de l'argent avec. Il y a plein de films de la WWE à cause de ça. Il y a plein de lutteurs qui font des films, des B-movies super dégueulasses. Mais tu sais, au moins, ils ont accès à des assurances parce que c'est pas comme assurable un peu. Mais ça, écoute, c'est peut-être faux, là. OK?
Bon, ben, c'est intéressant. Mais par contre, tu sais, faut dire, il y a des bons films avec des lutteurs quand même. Il y a des bons films avec Batista, il y a des bons films avec John Cena.
Ouais, mais c'est pas parce que t'es lutteur que t'es nécessairement bon comédien. Là, ben,
dans le cas d'Hulk Hogan, vraiment pas. En tout cas.
Les films récents, la dernière vague, si on peut dire, de lutteurs, eux autres, ça a bien été au cinéma. Mais dans ce temps-là, les années 80-90, on dirait que c'était juste de la merde.
Ça marchait pas, hein, ouais.
Pour reprendre tes dires, Joël, dans Santa with Muscle, à deux reprises, il y a une analogie à la carrière d'Hulk Hogan parce qu'il tombe d'un vidange comme deux fois.
ouais, j'ai pensé à la même chose.
C'est essentiellement une représentation de sa carrière au cinéma.
C'est vrai. Le film a été écrit par trois personnes, Jonathan Bond, Fred Matta et Dory Crum Raymond. Ça a pris trois personnes pour écrire cette merde-là. Ça me surprend. Là. Puis c'est le seul film que ces trois personnes-là ont écrit.
Ouais.
Je peux comprendre.
C'est un bon signe. Puis juste pour ceux que ça intéresse, Jonathan Bond, il joue le gars qui pousse Napoléon dans Glissade d'eau dans le premier Bill and Ted. Buddy, you're holding up the line. Les acteurs principaux, Hulk Hogan, évidemment, qui jouent le rôle de Blake Thorne, le millionnaire égoïste. C'est une légende de la lutte professionnelle. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer c'est qui. Il a joué dans plusieurs films discutables. On en a parlé tantôt de L'Ultime Menace.
Et si je te coupais tes petits bijoux?
Non!
Santa with Muscles, selon moi, c'est le pire film d'Hulk Hogan qu'on a fait dans le cabanon, du moins. Là. C'est le plus décevant.
Mais je pousserais plus loin que ça, Joël. C'était vraiment un film qui était pénible. C'est un film qui avait rien. Il n'y avait pas de saveur. On dirait que c'était comme 87 films de Noël, TV movie, dans un même film, genre avec les mêmes genres de petits clichés, les mêmes facilités.
Puis encore là, Jean-Gab, je te relance, mais le côté de Noël, moi, je l'ai pas tant senti. Là,
on le sent pas. Hein? Ben, c'est Noël en Californie, donc il n'y a pas de neige. Parce que je pense qu'en Californie, le fait qu'il manque de neige, on dirait que ça ne nous met pas dans le mot, tu sais. Mettons, Die Hard, c'est plus un film de Noël que ça, selon moi. De loin.
Oui, mais c'est un film de Noël.
Oui, c'est vrai, c'est un film de Noël. Mais pour vrai, sérieusement, je l'écoute à chaque Noël.
Attends une minute, Jean-François, Die Hard, c'est un film de Noël ou pas?
Ben oui, certain que c'est un film de Noël, voyons.
Ok, parfait.
Le 2 aussi. Le 2 aussi.
Ça se passe à Noël?
Le 2, ouais, juste les deux premiers qui sont à Noël.
Ah oui, le troisième, c'est à New York dans un taxi.
Les autres acteurs, il y a Don Stark dans le rôle de Lenny, le lutin. Il est principalement connu pour avoir joué dans That 70 Show. Il faisait Bob. Il y a Robin Curtis dans le rôle de Leslie, le propriétaire de l'orphelinat. Elle a joué dans plusieurs films, dont Star Trek 3 et 4 et Star Trek The Next Generation, la série.
Jean-François, tu aimes ça, Star Trek, je pense.
J'adore Star Trek.
Ouais. J'ai su ça, moi. Ben, parce que je suis le podcast Tu me niaises.
Ah, oui. Mais j'adore Star Trek, mais je ne l'avais pas reconnu, elle.
Il y a Ed Begley Jr. qui joue Mr. Frost, le vilain. Il y a 326 crédits d'acteur quand même sur IMDb, dont récemment dans Better Call Saul, il jouait Clifford Main. Il y a Mila Kunis, une jeune Mila Kunis qui joue une des enfants de l'orphelinat. On la connaît dans plusieurs films, dont, ben, pas, c'est pas un film, la série That 70 Show. C'est pas mal là qu'elle a commencé. Il y a Clint Howard, qui est le comic relief shérif de police. Qui a joué dans plein de films, dont plusieurs mauvais films. On se souvient de House of the Dead, de Weeball, qui joue l'espèce de Marie retard. Là.
Ouais, moi, j'ai noté que c'est trop de Clint Howard pour cette année, pour vrai. J'ai trop vu Clint Howard cette année. J'ai écouté, j'en ai déjà parlé dans nos derniers épisodes, puis dans le dernier live qu'on a fait, mais le dernier spin-off d'American Pie, puis il est là. Puis ça, je l'ai su parce que j'ai checké ce qu'il a fait récemment, parce qu'honnêtement, j'ai écouté le film, puis j'ai même pas remarqué qu'il était là.
Ah ouais. Attends, il y a une face assez reconnaissable.
Ouais, il y a un visage atypique, là, quand il est là, habituellement, tu le remarques. Là.
Visage atypique, ça veut-tu dire laid, ça?
C'est une façon polie de dire, mais...
non? C'est une façon polie.
Méchante grosse face LED.
Il y a Ed Leslie, qui est aussi connu sous le nom de Brutus de Barber Beefcake, le lutteur. Qui a un petit rôle dans le film. Il joue, en fait, il joue dans plusieurs films avec Hulk Hogan, dont L'Ultime Menace. Il joue l'espèce de goon, le gars de sécurité dans le bar. Là. Puis dans Satan with Muscles, il joue une yellow face. Une espèce, l'espèce d'asiatique stéréotypé avec un Fu Manchu, l'espèce de garde.
J'avais pas fait le lien.
Il dit rien à part. On est rendu au survol du film, si vous êtes prêts.
Oui.
Êtes-vous prêt?
On ne sera jamais prêt pour
ouais,
ça.
C'est ça, ça pas l'air.
Passe.
Ça commence avec une voix off d'une petite fille qui s'appelle Elisabeth. Puis elle t'arrête d'écrire au Père Noël pour demander de sauver l'orphelinat. Elle dit que le méchant Monsieur Frost, il veut fermer l'orphelinat.
Tu sais, quand le manoir du méchant nous est comme présenté, il y a comme de la boucane qui pitch. Tu sais, il y a comme genre des spots de boucane qui sortent. Là, j'étais comme. Mais on dirait que c'est vraiment plus un film d'Halloween. Tu sais, quand ça commence, le film, tu fais « Ah, film d'Halloween! » Tu sais, parce que c'est comme l'automne, un peu, dans ce manoir-là, on dirait. Puis là, comme t'as la petite fille qui écrit comme sa lettre, mais tu sais, elle écrit des crayons de cire, tu sais. Puis sa lettre est tellement longue pour un enfant qui a de la misère à s'exprimer. Tu sais, imagine, ça, là, c'est un genre, c'est un 15 pages au crayon de cire, là. C'est pas comme une page recto verso, là. Allez, arrêtez, là.
Ouais, mais moi, je trouvais que c'est une drôle de présentation. Ça me faisait penser à un genre de manoir de film d'horreur ou de boss, là, tu sais, d'un jeu vidéo, là, tu sais, que tu vois la première fois, là, puis de la vapeur, mais pourquoi?
Ouais, qui sort de, tu sais, des grosses cannes de sauce tomate ou des grosses cannes à café. Là, ça a vraiment l'air de ça, des geysers de fumée.
C'est de la science, parce que c'est un manoir de scientifique.
Oui, exact. Il va avoir du jargon de scientifique, des mégabits de données.
Ouais.
Des gigabits d'informations.
Là, on voit Blake Thorne, Hulk Hogan, qui est en espèce de mission. On dirait que c'est l'ultime menace. Puis là, il se faufile dans la cour d'un manoir. Puis, il arrive dans le dos d'un gars qui est en train de sentir des fleurs. Puis, il pète la gueule, puis il y a un beau one-liner.
Never stop to smell the roses.
Never smell the roses, mais c'est pas des roses, c'est des lys.
Ah ouais?
Oh!
C'est pas des roses. J'ai pas remarqué ça. Vous avez de l'argent en tabarnak, là. Allez acheter des roses, calice!
Fait que ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, Jean-François, t'avais pas encore abandonné. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas remarqué ça, là, que c'était des lys et non des roses.
Ouais, c'est au début, c'est les 15 premières minutes. J'ai fait comme, ce film-là a peut-être du sens, tu sais. Finalement, on va se dire comme que non. Okay, non. Mais...
si un petit détail de même te dérange, je comprends que c'est le pire film que t'as vu de ta vie. Là.
Ça va être long.
Ça va être long.
Puis en plus, Hulk, il est en camo brun, puis il se cache dans des plantes vertes.
Ouais.
Moi, j'étais comme...
En plein jour, là.
C'était un indice, dans le fond. T'sais, comme on va se rendre compte que tout le long du film, il n'y a aucun choix qui va avoir rapport dans rien. Puis tout va être comme... On dirait qu'ils ont comme pris de quoi, puis ils l'ont comme shaké, puis on fait « Ça va être ça! »
C'est pour les enfants, on s'en calisse.
Ouais, un peu.
Ils garochent ça.
Tu sais, Hulk Hogan, il pète la gueule à tout le monde, tu sais. Puis là, comme il arrive pour pogner une boîte en or, tu sais.
Ouais.
Puis là, il arrive pour la pogner, puis là, tout le monde, tu sais, puis il y a une hostie de gros sang de combat, ils veulent pas qu'il pogne la boîte en or, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte en or? Ils le sauront jamais.
Oh, ben, c'est comme la mallette dans Pulp Fiction, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est une lumière.
C'est le MacGuffin.
Ah, c'est ça, c'est fou. Ça laisse place à l'interprétation. T'sais, c'est artsy comme film, dans le fond. Là.
C'est une véritable œuvre d'art.
Faut dire que le monde qui l'attaque, on dit que c'est le staff du manoir. Il y a un cuisinier qui l'attaque en criant avec un espèce de marteau pour attendre la viande. Il y a des jardiniers qui l'attaquent avec un râteau puis un weed eater. Le conducteur de limousine avec son wrench. Puis là, à un moment donné, il se bat le patayal à tout le monde. Puis là, il dit stop. Puis là, on se rend compte que c'est une simulation.
Time. 4 minutes. 23 seconds. Rope.
Je comprenais pas c'est quoi le but du jeu. Mais c'est juste qu'il pétait la gueule au monde pour vrai.
Il l'installe un peu comme un Scrooge, là, pour vrai. Là.
Ouais, ouais, c'est
un peu,
ça.
C'est un peu comme Bill Murray dans sa version de Scrooge. Une espèce de boss moderne, millionnaire, mais pas cool. Là.
Oh my gosh. Does that suck?
Moi, je trouve qu'il l'installe plus comme un genre de Richie Rich, mais douchebag, là, tu sais.
Ouais.
Tu sais, c'est genre le millionnaire dans la tête d'un enfant, là, tu sais, genre, c'est comme pas réaliste. C'est à ce moment-là, j'ai fait, OK, vraiment un film pour enfants, là.
En fait, on comprend pas c'est quoi. C'est quoi son, pourquoi il est riche. C'est comme une pseudo-célébrité, entrepreneur qui vend des produits.
Il y a une compagnie de comment ça s'appelle, là, la poudre que
méga muscle.
Des suppléments, là, pis tout ça, des suppléments de protéines.
La sauce.
Mais tu sais, c'est ça, c'est comme un culturiste célèbre, peut-être.
Il fait ça puis des céréales.
Ouais, il y a des céréales, il y a de la vinaigrette.
Plusieurs fois, on voit l'emballage de ça, puis c'est un dessin de Hulk Hogan. Puis je me suis demandé, Joël, tu le sais plus que moi, je pense, mais est-ce que c'est un plus beau dessin ou un aussi laid dessin que le dessin animé d'Hulk Hogan?
Hey boy, je te dirais que c'est plus laid que le... Non, je veux dire que c'est un visage atypique, le dessin. Puis que c'est... Ouais, je pense que c'est plus laid que le... Je me souviens plus, c'est loin dans ma tête, le dessin animé d'Hulk Hogan. Le dessin animé d'Hulk Hogan, c'était surtout de l'animation qui était laid. Les dessins, ils étaient corrects, me semble. Now you've made the Hulk mad! Le butler de Hulk Hogan, de Blake, qui parle d'une activité de charité de Noël, puis lui, il s'entorche parce que c'est un égoïste. Puis il dit, oh, on va leur donner les barres protéinées qu'ils vendent pas, là, donne leur sur, ça va faire la job. T'sais. On voit qu'il n'y a pas grand-chose.
C'est un trou de cul.
Puis moi, j'ai noté, on sait bien, hein, les gens, plus qu'ils ont de l'argent, moins ils en donnent.
On sait bien, hein? Plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent.
On en a parlé en ouverture, la microbrasserie Les Grands Bois, notre commanditaire. Mathieu Tessier, qui était notre invité il y a deux semaines, vient de m'envoyer une photo de Jean Gab.
Ah, calice!
C'est comme dans un party style Petite Grenouille quand on était à l'UQTR. Là.
Okay.
Puis, tu portes un costume à la Baywatch, un peu.
Ah, OK, ben oui, je sais c'est quoi. Oui. Ben oui. C'est déguisé en Pamela Anderson.
Avec le poil.
Mais avec le poil qui dépassait de ma fourche, dans le fond. Puis j'ai gagné 500$ cette soirée-là pour mon beau costume et mon audace.
Ben, en tout cas, merci à Mathieu. Je pense que c'est sa petite vengeance pour la fois qu'on a sorti des photos de lui dans une pièce de théâtre où il jouait Grease au secondaire. Excuse-moi, je t'ai coupé cette photo.
Ah, il n'y a aucun problème.
C'est priceless. C'est une excellente photo.
Ouais, mais je sais exactement de quoi tu parles. Je l'ai vu, cette photo-là. Puis je m'en souviens de ce costume-là. C'était quelque chose. On revient au film. Il y a Blake qui part avec sa gang faire du paintball en Jeep ou en motocross. Là. Puis là, on voit Clint Howard, le shérif, Comic Relief, qui fait du radar. Puis il voit que Blake va ben trop vite. Fait qu'il court après avec son char de police.
L'affaire, c'est que la police, OK, elle sort des shotguns. Puis elle commence à shotgunner dans la direction du char. T'sais. Mais on s'entend que tout ce qu'ils ont fait, c'est genre une infraction du code de la route. Là, ils ont comme juste été vite. Là, voir que la police va sortir des shotguns. Puis tirer dans ta... What the fuck? Ils ont des fusils à paintball.
Ouais. Il y a bien pire que ça plus tard dans le film, ouais. Jean-François. Je sais pas si t'étais encore là. Je sais pas si t'as tenu le coup jusqu'à ce moment-là. Mais pour vrai, ça va loin, là, la police. Là. On les sait violents, les policiers américains, mais il y a quand même
qui commence à me gosser, moi, mettons. On dirait toute la représentation de la police, mettons, des films américains, mais sont tout le temps épais. Mais tu sais, épais, rare, là. Tu sais, comme lui, mettons, quand il est comme tout seul, puis il fait du radar, puis il fait des bruits avec sa bouche, je pense. Du...
C'est le shérif, comme, là.
Ouais. Le shérif, là, tu sais. Non, il est deputy sheriff. C'est pas nécessairement le shérif, par exemple.
C'est pas le seul réaliste du film, je trouvais, en tout cas.
mais tu vois, je trouve ça con, mettons. Tu sais, je veux dire, il y en a des épais, mais je suis pas mal sûr qu'ils leur donnent pas toutes des guns, mettons.
Ben, spoiler, oui. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet.
Ouais. Fuck the police, hein, c'est ça.
Scoop!
Bref, les...
Je me souviens pas si je vous ai déjà dit ça, mais j'ai déjà fait un travail de sémiologie sur la représentation des policiers dans la comédie américaine. Okay. Puis j'avais pris une scène du premier Harold et Kumar pour parler de ça. Puis on dirait que dans chaque plan, ils faisaient passer les policiers pour des hosties de cabochons, pour vrai. Là.
Hey, listen up, guys. Multiple gunshots fired in Millbrook Park.
Finally, some action. I'm going.
No, I'm going.
Let's go, man.
Lock and load! Woo!
Peut-être que la police aux États-Unis est vraiment fucking cabochonne. Ça se peut, c'est aussi. Ouais. On connaît pas la situation, tu sais.
Il y a certains films dans lesquels ça marche. Mettons Superbad. Les policiers sont épais, mais c'est oui. Des gars de party puis s'entorchent un peu. Mais...
Meilleur exemple.
Ouais, c'est ça. Mais dans ce film-là, dans Santa with Muscle, ils sont épais et sont violents aussi. On dirait les policiers de GTA. Là, t'es regardes puis c'est dessus. <là. rire> Puis, il y a une poursuite. Ça va jusqu'à la ville de Lakeville. Puis là, Blake, il dit à son compagnon de char, il dit « Ah, il y a plein de places pour se cacher. Là. J'ai grandi dans cette ville-là. » Que ça veut dire. Fait que là, il donne le volant à son compagnon, puis il se crisse en bas du char, subtilement, puis il s'enfuit vers un centre d'achat. Puis ça coupe au centre d'achat, justement, puis il y a des hommes déguisés en lutin, puis la gérante, je pense, du centre d'achat qui est en tabarnak parce que c'est comme un village du Père Noël, puis le Père Noël, il est absent. Puis là, c'est l'intro du personnage de Lenny qui parle au téléphone, puis là, il parle à quelqu'un, puis je pense qu'il doit de l'argent à quelqu'un, il a l'air dans le trouble. Ensuite, c'est l'introduction de Dr. Blight, le physicien de M. Frost, qui torture un homme qui est comme à l'envers, puis lui parle via une télé. C'est comme un FaceTime. Là. On apprend plus tard que ce personnage-là, il est germophobe, qui a peur des germes, fait qu'il désinfecte tout alentour de lui. Il est vraiment comme 2020, cet homme-là. Là.
Ouais.
Ouais, puis, mais tu sais, comme de la technologie, mais cheap, là, tu sais, c'est comme, on dirait. Juste les moyens du bord pour montrer un FaceTime, justement. C'est une vieille télé cathodique. Il parle dans un genre de microscope. toute sa technologie à lui est dégueulasse. Là, comme il sort une map, c'est comme un genre de cossin. Ouais, genre ça, exactement ça. Là. Puis tu sais,
la technologie de 96. En 96, tu parlais à une télé, c'était hot. Là. C'était impressionnant.
Ouais, mais si tu veux montrer quelque chose de hot, tu peux créer quelque chose de plus cool que ça. Là, j'ai l'impression tu peux inventer de quoi, là? T'sais.
Pour un super scientifique, c'est ordinaire comme technologie.
Vraiment, là.
C'est des moyens du bord.
Et sa porte aussi, je veux juste attirer l'attention sur sa porte faite en isolant. Juste comme une maison en briques, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Puis autour de la porte, ils ont juste mis des plates d'isolant tapées là.
Mais comme à quoi ça sert qu'il soit germophobe, mettons, tu sais?
C'est un aspect comique.
C'est super drôle.
C'est vrai que ça sert absolument à rien. Il y a beaucoup d'affaires dans le film qui servent absolument à rien.
Et ouais, vraiment, on dirait que c'est juste une accumulation d'affaires qui servent à rien. Là,
ouais, c'est ça. C'est
bien, des stéréotypes qu'ont voulu rassembler, là, genre du millionnaire qui était milliardaire probablement, qui s'éloigne de tout le monde, qui est dans sa bulle. Tu vois ça, c'est comme moi, j'ai déjà vu ça à quelque part, pas où, parce qu'il y a eu 1000 films de même.
Ils introduisent aussi des personnages comme de scientifiques. Comme géologue qui a comme juste un genre de pinceau pour peinturer une maison.
Ouais, c'est Monsieur Flynn qui ressemble à Martin Petit.
Après ça, t'as comme un deuxième qui est comme le spécialiste de quoi? C'est lui qui les dents, c'est quoi déjà?
C'est Mr. Vile, Monsieur Vile, le chimiste canadien qui fait des gars.
C'est ça, le chimiste. Il y a comme des dents de même, c'est ça son feature, là?
Ouais, c'est insulté de voir qu'un de mes alter ego à palette soit aussi désagréable et épais.
J'avais pas pigé qu'il était canadien, ce personnage-là, mais ça explique pourquoi ils l'ont fait aussi niaiseux, genre.
Ouais.
Mais je trouve que c'est le seul qui s'en sort bien dans le film. C'est le seul bon comédien, bon personnage qu'on a le goût de voir, tu sais. Pour vrai, oui. C'est le seul qui est bon du début à la fin.
Some find the scent of methane gas offensive. But I like to think of it as nature's perfume.
Après ça, t'as l'agent de méchante de plante, comme tu sais, avec des doigts électriques. Là, c'est comme pourquoi qu'elle est botaniste, séductrice, avec des doigts griffes d'éclair.
C'est la Poison Ivy.
Poison Ivy, 100%.
Ben, je pense que c'est parce que tu dis qu'elle est botaniste parce qu'elle arrive avec une fleur. C'est Madame Watt qu'elle s'appelle parce qu'elle a des gants électriques et elle pète une fleur avec ses gants.
Ouais.
Je sais pas comment ça marche avec un choc électrique, ça fait exploser une fleur.
C'est comme des méchants de Batman, là, tu sais, si tu fais
ça. C'est trois caricatures, là. C'est surjoués. On revient à Blake qui est dans les coulisses du centre d'achat pour se cacher de la police. Puis il trouve un habit de Père Noël. Puis il se change en Père Noël pour tromper les policiers. Puis là, il croise un petit gars qui lui donne une liste, sa liste de souhaits de Noël. Il avait ça avec lui. Puis la liste est vraiment longue. Puis il y a comme un son de caisse enregistreuse. Puis c'est supposé être drôle. Puis là, Blake, il l'envoie chier.
Do you have a minute?
Fax me, you little brat.
Puis là, c'est la critique de Noël comme étant une fête capitaliste. Là, on est rendu là. OK, Noël, c'est une fête capitaliste. Tout le monde veut voir le Père Noël. Il est où, le petit Père Noël? Quand est-ce qu'il arrive le Christ de Père Noël? Tu sais, il y a comme une fille qui est comme, je donne 25$ ou 75$ à n'importe quel des lutins qui va me chercher le Père Noël. Tu sais, puis là, comme les lutins sont comme des mafieux un peu. Ouais. Comme ils jouent aux cartes, là, tu sais, ils fument en arrière dans la maison du Père Noël.
Puis il y a une régisseuse pour le Père Noël du centre d'achat.
Ouais. Je suis comme, pourquoi que, tu sais, ils ont-tu engagé genre la mafia new-yorkaise pour jouer les lutins? Pourquoi? OK? Puis deuxièmement, OK, comment ça tu cherches le Père Noël? Dans le sens, c'est pas comme juste un gars qui arrive, qui met un suit, puis là, il fait des photos. Genre, c'est quoi? Il apporte son suit de chez eux, genre? Puis comme deuxième point, OK, qui va briser le film complètement, OK, si t'as absolument besoin d'un Père Noël, là, déguise un des lutins en Père Noël. Chris, va aux Zellers! Tu sais, il y a des costumes de Père Noël. Ben, tu penses que le monde achète leur costume de Père Noël pour faire le Père Noël à la maison?
Il y en a un costume qui est prêt dans les coulisses.
Ben, c'est ça aussi qu'à plus tard, on s'aperçoit. Ah, oh, il y en avait un dans les coulisses. Voyons, elle est épaisse, c'est elle. Je donne 75$ pour quelqu'un qui va me chercher le Père Noël, puis elle réalise pas qu'il est juste sur le sein. Chris, va en arrière checker si... En tout cas.
Non, mais c'est tout.
On arrête ça là. C'est
comme si c'était un show de Céline. Vite, le Père Noël.
Il manque juste une oreillette. Là, je suis stressé.
Tout le monde qui attend sa photo, genre le Père Noël, le Père Noël. Quand finalement Hulk Hogan arrive, je saute vraiment rapidement dans le film. Mais juste pour tout le monde prend des photos. Oh mon Dieu, l'homme est arrivé pour travailler. C'est tous des adultes ici. Dans le sens, c'est pas le vrai Père Noël. On le sait. Dans le sens, tu veux juste avoir une photo de ton enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde prend des photos du Père Noël. Voyons, c'est juste le gars, il est arrivé en retard.
Mais c'est pas clair. C'est pas clair dans le film si les gens savent que c'est pas le vrai Père Noël.
Il y a plusieurs adultes qui semblent penser que c'est le vrai Père Noël.
Ouais, c'est même aux nouvelles, genre, c'est vraiment pas clair. Là. C'est pas clair si les gens savent ou non que c'est un gars déguisé en Père Noël.
En tout cas, moi, je trouve que ce film-là, ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui a été écrit sur la coke une soirée de temps. OK, genre, premier jet. OK, ça va être ça le film dans le Golden Bye.
ça a l'air fait vite. Ben, juste dire que le scénariste original qui est pas crédité, il a menacé de poursuivre le film, la production pour qu'il se fasse enlever du film parce que son scénario a tellement été modifié qu'il était plus d'accord avec ça. Fait que peut-être que c'était un bon film à la base puis ils ont juste scrappé ça, les trois bozos qui l'ont remplacé.
En même temps, il y a beaucoup de trucs dans le film qui marchent pas là. C'est pas une scène. Fait que c'est, oui, probablement que c'était modifié puis que c'est moins bon, mais d'après moi, c'était pas bon.
Moi, j'ai l'impression que c'est un scénario recyclé, qu'ils ont rajouté des éléments de Noël, que c'était pas supposé être un film de Noël à la base, parce que l'aspect de Noël, là, tu peux l'enlever, là, tu peux remplacer. C'est pas tant obligatoire que Hulk Hogan soit le Père Noël. Là, tu pourrais changer.
Honnêtement, t'enlèves le costume de Hulk Hogan, il y a plus de Noël dans ce film-là.
Okay, puis les cristaux piézoélectriques dans le sous-sol du... ça, on peut-tu les enlever aussi ou faut les garder dans le film?
C'est pas Noël. Bon, on peut peut-être les garder.
Ouais, en tout cas.
Je sais pas, en tout cas.
Fait que on revient à Blake qui est dans le centre d'achat d'exemple à Noël, qui est dans l'écluse du centre d'achat. Il y a les policiers qui le reconnaissent parce qu'il était méchant avec le petit gars. Puis là, il se cache dans une chute à déchets. Puis tu disais que c'est une belle métaphore, Anto.
Ouais.
Puis là, il y a un concierge qui jette des déchets sur lui. Puis il jette un espèce de buste, un gros buste de Père Noël, lourd. Puis ça l'assomme, puis il tombe en bas, puis il perd connaissance.
Je veux juste dire que cette remarque-là, tu l'avais passée pour John Travolta dans The Fanatic. Il y a un moment où il traverse une clôture, puis il tombe dans une pile de sacs à vidange, puis c'est comme ça, c'est la carrière de Travolta des dernières années.
Je pense que j'étais
comme astique, c'est vrai. Je l'avais jamais vu de même, mais ça m'a marqué, ce passage-là de nos 2-3 années d'existence.
Ben, je pense que j'ai fait la même joke dans Steel, quand Shaq tombe dans des vidanges, un peu sa carrière cinématographique.
Ouais, le QG de Shaq dans Steel, c'est un dépotoir. C'est fucking nasty, ça.
Ouais. Fait que, où c'est que je t'ai rendu? Ah oui, il y a Blake. Ah,
j'arrête de te couper, là.
Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il y a Blake qui est inconscient à terre. Puis là, il y a le lutin, Lenny le lutin, qui vient, qui le trouve. Puis il prend son portefeuille, puis il voit qu'il y a plein de cash dedans, puis des cartes de crédit. Puis il capote, puis... Il est trop content, là. Vraiment trop content parce que, tu sais, on comprend qu'il doit de l'argent, tout ça. Mais il est content, mais gossant. Tu sais, quasiment le niveau papa d'un lutin, là.
Blake Thorne, richest man in 10 states? Blake Thorne? I'm rich! I'm richer than rich! I'm too rich!
Visa, Mastercard, American Express.
J'ai une ligne ici qui dit Don Stark, fucking gosse. Hein? Puis ouais. J'avais vraiment aimé That 70's Show en plus, mais je sais pas pourquoi là-dedans, il y a Sti qui me gossait.
Ben, il est gossant, mais. Surtout cette scène-là, là. Je pense vers la fin,
ouais, c'est correct, monsieur. Ouais, ben quand il name-drop les cartes de crédit qu'il y a dans le portefeuille de Hulk Hogan, Visa, Mastercard, American Express, yeah!
Ouais. Il dit ça comme si, OK, c'est les enfants, ils vont comprendre c'est quoi une Visa, une American Express. Les enfants, ils savent pas c'est quoi.
C'est pas si clair à qui ça s'adresse. Je veux dire, c'est un film de Noël avec de la musique très film pour enfants, mais en même temps, il y a du monde qui se poursuit en Hummer avec des guns, ça se tape sa gueule.
Je pense que ça s'adresse à un des enfants et deux du monde très, très gelé.
I love that shit.
You're so high right now.
Puis des fans d'Hulk Hogan de l'époque.
Et si, ouais. Ben ça, tu vois, c'est un peu mélanger les deux catégories, mais gars. Ouais.
Fait que Blake se réveille, puis là, il a perdu la mémoire. Fait que là, Lenny lui dit « Ah, ben là, tu vas être le Père Noël, parce qu'il nous manque le Père Noël, viens-t'en. » Puis là, Blake accepte, parce que c'est facile d'en même. « Moi, je sais pas, je suis qui, je vais être le Père Noël. »
En même temps, il traîne, hein, tu sais, il soulève.
Ouais, je sais pas comment
ben
il fait.
À un moment donné, il ramasse, puis il dit « Viens-t'en, tu t'en viens. » Puis là, il ramasse, puis il part pour aller vers comme le kiosque. Mais je suis comme « Aïe, aïe, là, il vient quand même de… » Parce que son permis de conduire, on le voit, il pèse 320 livres. Là. Okay? Ouais. Il est lourd en tabarnak, là. OK? Puis Hulk Hogan, il a déjà levé Andre the Giant, OK? C'était comme son highlight de carrière. Fait que là, si lui, à lutin, est capable de lever Hulk Hogan, ça veut-tu dire qu'il est capable de lever Andre the Giant puis qu'il a pété le corps? C'est ça, là. Il peut, et ça change tout, là.
Hulk qui lève Andre the Giant, qui se fait lever par l'ennemi.
Il y a Lenny, le lutin, qui va dans un guichet pour essayer de vider les cartes de Blake. Mais ça fonctionne pas parce qu'il doit mettre ses empreintes digitales. Ça existe-tu, ça, un guichet avec un scanner d'empreintes digitales?
Non.
Puis là, il y a deux bombes qui essaient de voler le bocal plein d'argent qui a été amassé pour sauver l'orphelinat. Puis il y a une petite fille qui est surprenante, puis elle crie « Santa! Yeah! » Puis là, il y a Blake qui dit « Hey, c'est moi, ça! » Fait que là, il s'en va à la rescousse pour se battre avec les bombes. Puis là, les bombes, ils se battent avec des cannes de bonbons, puis de géants, puis des décorations de lutins. En tout cas, c'est un bout de funny. Là. Puis Blake leur pète la gueule. Puis tout le monde dans le centre d'achat est super content. Yeah, de la violence! C'est ça que...
On va super cheap, mais quand même un peu violent. Puis t'as du monde qui regardait le combat dans des escaliers, puis tout ça. Puis quand ils gagnent, le monde applaudit.
C'est comme si c'était un match de lutte. Ouais. C'est comme, yeah!
Ouais, c'est ça. C'est
comme si c'était Opération Enfant Soleil aux Galeries de la Capitale. Tout le monde est comme sur des mezzanines. Puis, ouais!
Young man, hey!
Là, il y a Blake qui remarque le kiosque de levée de fonds, puis il dit « Ah, je vais aller là à l'orphelinat, puis parce qu'il sait pas, il faut rappeler qu'il a perdu la mémoire, qu'il est un peu perdu, c'est pas trop quoi faire. » Puis là, on voit la team de méchants scientifiques qui vont cogner à la porte de l'orphelinat pour demander à Leslie, la propriétaire, quand est-ce qu'elle va décalisser.
When are you going to decrease?
Évidemment, elle refuse. Fait qu'en bon mafieux, les scientifiques arrachent la statue de l'orphelinat avec une chaîne attachée à leur camion, qui est un camion de crème glacée, je pense. Là.
Parce ben que ouais, c'est funny.
Ça fait du sens.
Pourquoi,
ouais.
Pourquoi ouais, pas? Va,
je te suis.
Puis il passe proche de frapper Clayton, le concierge de l'orphelinat.
En fait, mais, ils veulent foncer dessus.
Ouais, en fait, ouais, ça, ils veulent foncer dessus. C'est ça.
Ah ben ouais.
Puis ouais, Blake.
Ouais, non, mais on est à Tiananmen, là, tu sais, genre, hey, voyons, quelle idée de stupidose de se placer devant un char qui vient de... En tout cas.
Pour sauver une statue, tu sais.
Genre, mais, ouais.
Puis Blake, ben, il sauve Clayton en arrêtant le camion, en tirant sur la chaîne. Ça veut dire qu'il est fort en tabarnak, celui-là. Le monde de l'orphelinat sont contents, puis ils invitent Blake et Lenny à venir chiller avec eux en dedans. Les enfants pensent que c'est le vrai Père Noël, évidemment. Donc, ils lui offrent des biscuits puis du lait. Puis le joke, c'est un culturiste qui dit « Ah, ben là, c'est calorique. Est-ce que c'est du lait diète, puis faible en gras? » Puis Lenny dit « Non, non, mange-le. Faut qu'il pense que tu le prépares
à elle. » Du lait diète.
Ouais, du lait, ouais, faible en gras. Puis, fait qu'on est crampé. Puis tout le monde mange à table. Puis là, j'ai noté que le mix sonore, il est dégueulasse. Il y a comme un sound effect d'un enfant qui rit, qui est répété comme 3-4 fois.
And the guy said, And this guy's got a nose ring the size of a donut.
Il y a aussi comme le fait que, tu sais, c'est un orphelinat avec 3 enfants.
Ouais,
genre, c'est pas un orphelinat, c'est une famille d'accueil, calice.
Oui, ouais, c'est une église. C'est un orphelinat, ouais. C'est un orphelinat crissement grand avec une église dedans, puis il y a 3
ils sont
ans.
Comme, si on perd l'église, où on va aller? Ben, n'importe où, calice, dans un 4,5, vous allez fitter. Ouais.
Il y a comme le vieux monsieur qui est là, puis la femme, mais il couche là-bas.
Ouais, les Blake et Lenny, ils restent à coucher parce que, ben, tu sais, Blake, on se dit, parce qu'il sait pas, tu sais, c'est quasiment un sans-abri parce qu'il sait pas qui il est, il sait pas où est-ce qu'il reste, mais Lenny, ouais. Lui, il a pas de vie, c'est quoi, là?
Non, c'est ça, lui, mais comme genre.
Il veut profiter de lui, je pense. Il veut comme son cash, il veut comme réussir à avoir son emploi.
Mais moi, je trouve le réflexe d'inviter à coucher un gars méga fort qui est capable de tenir un camion avec une chaîne. Tu fais « Hey, viens-tu coucher chez nous dans l'orphelinat? »
Ouais, mais c'est.
Ça serait cool!
C'est le vrai Père Noël. Il pense que c'est le vrai Père Noël, peut-être.
Okay.
Mais je pense que c'est pour vrai, là. Je vais faire l'avocat du diable, là, je vais défendre le film un peu. Je pense que c'est pour les enfants qui font ça. C'est comme, c'est le Père Noël, les enfants vont être contents. Puis, je pense que c'est ça.
Les enfants, on peut leur dire n'importe quoi. Mais oui, ils sont pas bright. Là, genre, ouais,
lui, non. Les petits cons. Puis, en tout cas, ouais, il reste à coucher.
OK.
Il reste à coucher, puis il y a Lenny qui a un saut de lapin. En guise de pyjama.
Mais parce qu'ils veulent comme ils veulent réparer leur linge parce que là, ouais. Ils sont comme un peu. Ils ont déchiré les vêtements pendant l'altercation. Fait que là, ils veulent réparer, rapiécer les choses. Fait que là, les pyjamas qu'ils trouvent, c'est genre un pyjama de Jésus, genre, ouais. D'une crèche. Puis ouais. Lenny, lui, met un lapin, tu sais, mais comme. Le gangster de New York qui veut voler l'argent des cartes de crédit décide de coucher à l'orphelinat sans avertir personne. Je veux dire, ce gars-là, là, clairement, là, je veux dire, à cette heure-là, là, il est déjà, là, tu sais, wouhou, let's go, là.
Ouais.
Il a besoin d'argent, tu sais, ce qu'il n'y a pas pour de l'argent, tu sais, il
va en fumer des clubs, genre, tu sais, je veux dire, c'est quoi cette vie-là? OK, il est 8 heures, il faut aller se coucher.
Ouais.
Je vais être habillé en lapin. Tout ça a du sens.
Ouais, c'est ça. Le lapin, ça fait référence au lapin de Pâques, j'imagine.
Ben oui, c'est
mais
ça.
Moi, j'ai noté. Ça faisait penser. Je fais une référence à Passepartout, faire changement. Là. Mais dans un épisode de Passepartout, il y a je sais pas si vous en souvenez, je sais pas si Jeff t'a écouté ça, Passepartout. Je sais pas si c'est.
Oui.
Il y a un épisode que les passes, ils font semblant d'être super fatigués le matin. Donne-moi la boîte de céréales. Puis ils poussent la boîte de céréales. Puis Passe-Montagne, il arrive. Puis il y a les oreilles de lapin sur la tête. Puis on sait pas pourquoi. Ah. C'est jamais expliqué pourquoi. C'est fucked up d'avoir dit qu'il a perdu un pari, puis ça me faisait penser à ça.
No joke, quand t'as dit les passes, ça me prend un bout à computer de quoi tu parlais.
Ouais, pourquoi c'est les passes, puis pas les partout, en tout cas?
Les passes.
Ça fait les passes.
La famille des passes.
Passe!
Non, passe! Non, passe!
Non, passe!
Passe!
Fait que le lendemain matin, tout le monde déjeune. Il y a Blake qui a pas sa barbe de Père Noël. Puis là, tout le monde est traumatisé. La petite Elisabeth est là. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, ah, oh, c'est parce que j'avais chaud. Puis il a dit, OK.
Excuse-moi, Joël, c'est la petite Elisabeth.
Elisabeth. Ouais.
Comme la pub de McCain.
Bonjour. Elisabeth. Qui veut un monsieur Jeteux?
Moi.
Un monsieur Jeteux.
Moi.
Ouais, faut dire qu'on l'écoutait en VO, là, parce que moi, je voulais avoir le mauvais acting de Hulk Hogan, mais je sais pas si la VFQ ou la VFI ou whatever sont pas pires. Là.
Tu peux continuer à renifler tes fleurs.
Je suis riche, je suis plus riche que riche, je suis trop riche. Visa, Mastercard, American Express.
Ben, écoute, 96, moi, je pense
c'est sûr que non.
Ben, pour vrai, je pense pas que c'est un doublage si horrible, parce que c'est quand même récent, d'une part. Puis deuxièmement, Hulk Hogan, son acting de cul, il est quand même dur à battre en tabarnak, ouais. Pour vrai. Là.
Let's roll! There's a million places to hide. I grew up there.
D'ailleurs, je l'ai pas dit, je l'ai sauté, j'ai pas fait de Joël là-dessus, mais il y a un moment où j'ai noté, il est pas drôle, ce gars-là, calice. Il est comme, il fait des petites jokes, puis je suis comme, il a le charisme là, à zéro, là, mon gars. C'est pas drôle.
Ça me surprend. Ça me surprend parce qu'un lutteur, c'est un peu sa job d'avoir du charisme. Tu sais, sur le ring, là, il
faut que ça mais pas de faire des jokes.
Ouais. Ah, puis lui, on s'entend, il devait en avoir là, du charisme sur le ring. C'est un peu grâce à Hulk Hogan que la lutte est devenue aussi
ben, il jouait,
lucrative. Là,
ben, je pense dans la lutte, il jouait souvent un méchant. Je pense que c'est ça. Puis,
c'est non, il jouait le gentil. Là. C'est Mr. Nice Guy. Là.
Moi, je vais me fier Jean-François.
Ah, oui, ouais, non, c'est genre « Mangez vos vitamines, les enfants. C'est super important de prier Jésus. » Puis « OK, je suis l'ange. » Non, c'est genre le gars le plus fin. Là.
Moi, je me demande juste, Hulk Hogan, il s'est-tu déjà battu contre Mad Dog Vachon?
Il ne penserait pas.
Non. Il a sûrement déjà fait un rap, Hulk Hogan. I was walking down the beach, looking for some action. Had my radio set on a rap station. Saw a girl in trouble, a sticky situation. She wanted me to give her mouth to mouth a session. Beach
Patrol. Il a fait une toune Living in America, je pense quelque chose de même, là, avec une guitare électrique très patriotique, puis des feux d'artifice. Ouais.
Mais est-ce que tu connais le rap de Mad Dog Vachon?
Non, je connais pas le rap de Mad Dog Vachon.
C'est quelque chose. On t'enverra un lien plus tard.
J'aimerais savoir ça. Je m'appelle Mad Dog, vous connaissez, j'ai pas besoin de me présenter. Je suis bien content de vous rencontrer pour la dernière fois dans votre quartier. J'ai pas de ça, c'est que même pas faire. J'ai des balances, la populaire. Quand ça marche pas, moi je fais dans le top. Ça prend pas un dictionnaire pour comprendre ça. C'est lui, notre champion. Number one.
C'est en français, bien sûr.
Oh,
ouais.
Bien sûr. Je l'imagine pas parler en anglais.
pour vrai, il était bilingue, mais il avait un esti de gros accent.
No wonder, look at this mountain of beer. I've never seen such selection in all my life. Local beer, United States beer, Canadian beer, imported beer. No wonder, with their prices. And he told me, dude, this was an easy part-time job. Don't I ever get a coffee break around here?
On vient au film. Il y a... au déjeuner, il y a une boîte de céréales Power Crisp, les céréales de Blake. Avec le dessin lettre, le dessin avec un visage atypique dessus. Là.
Méchante grosse face LED.
Puis Lenny, lui, il cache la boîte de céréales. Il vide la boîte de céréales. Il vide ça sur. Il en verse sur ses œufs. Puis il dit c'est bon demain. Puis il cache la boîte de céréales. Puis il dit c'est bon, on va recycler ça. Pour pas que les enfants voient, qu'ils reconnaissent Blake sa boîte de céréales. Mais en même temps, il ne se ressemble pas tant. Là. Il y a juste un petit dessin lettre.
Mais surtout que, tu sais, je veux dire. Imagine, là, tu sais, genre, t'as le gars des Rice Krispies, là, t'as Cric Crac ou Croc, là, mettons, Cric Crac Pop, je sais plus trop le leur nom, qui rentre chez
ça,
vous.
C'est ça, Cric Crac Croc, ouais.
Ouais, OK, il y a une barbe, OK, tu les invites à coucher, là. Puis là, le lendemain matin, ils arrivent comme Croc, un peu, là, tu sais. Puis là, toi, tu déjeunes avec ces boîtes-là à tous les jours de ta vie, là, dans le sens, c'est ça que tu regardes depuis longtemps, là. Genre, tu le reconnais, là, non?
Ouais.
En tout cas,
eh oui.
Moi, à ce moment-là, du film... Tu sais, je vais faire une analogie de céréales, OK?
Ouais.
À ce moment-là, dans le film, je me suis dit, il n'y a vraiment rien de bon dans ce film-là. Il n'y a rien de bon, tu sais. Puis comme, tu sais, mettons, quand tu achètes des Lucky Charms, tu sais, genre, les céréales sont pas si bonnes, mais au moins, tu as les guimauves. Tu sais, des fois, tu fais comme, il y a des guimauves au moins là-dedans. Mais ce film-là, c'est vraiment juste les céréales qu'on aurait roulées dans la marde. C'est comme, rien de bon, là. C'est poche, mais c'est même pas poche bon, tu sais. C'est juste comme...
Non, c'est lourd, ouais. C'est costaud, là. C'était de la job à écouter.
Ouais. C'est vrai que c'est...
Mais par contre... Je dis que c'est de la job à écouter, mais il y a ce bout-là où est-ce qu'on est rendu dans le film, qui est possiblement mon highlight du film, en fait. C'est Hulk Hogan qui prend un verre de lait au ralenti sur la musique de 2001, Odyssée de l'espace.
Ouais.
Welcome, Lenny, to the United Banking System's Prince Secure Teller. For $100 gazillion, please place your stolen thumbprint on the scanner.
With us and have a nice life in South America.
ça valait la peine de gaspiller une heure et demie de ma vie pour ce bout-là du film.
Ouais, ça, c'était quasiment drôle, cette scène-là.
C'est drôle.
C'est comme over the top, c'est comme Lenny capote parce qu'enfin, je vais pouvoir avoir des belles empreintes digitales.
Et puis j'espérais tellement qu'il y ait sa grosse moustache de Hulk Hogan bien pleine de lait.
Ouais.
Ça a été malade.
Ça a fait une belle occasion de faire une joke potable, mettons, pour le film. Mais non, ils l'ont pas fait parce que c'est mal écrit.
Ouais.
Puis il y a Mila Kunis qui apporte un nouveau suit pimpé au Père Noël, ben à Blake en fait. Puis il est plus badass, il a comme les manches coupées, il y a un V-neck. Puis
une elle a fait ça.
Ouais, elle a fait ça pendant la nuit. Elle est efficace en esti là. Pendant la nuit, elle a comme pimpé ça, elle a cousu ça. Puis elle dit qu'elle a appris à faire ça dans la BD de Mega Man.
This is great, Sarah. Thanks. Where'd you learn to do this?
Mega Man number 96.
Je sais pas si ça existe une BD de Megaman, ce sont pas le Megaman qu'on connaît, mais tu sais.
Non, mais je serais pas surpris là, que ça existe Megaman, tu sais, des trucs à méga succès, ça arrive.
Ouais, mais t'apprends pas à coudre en lisant une BD.
Ben non, je sais bien, est-ce que t'apprends pas à coudre, surtout pas Megaman. Ben, il y a peut-être un saut de couturier, là, tu sais.
Mais tu sais, il faut dire.
Le boss couturier, tu prends son pouvoir.
Ben, ce film-là, c'est quasiment Megaman, là. Tu sais, les trois scientifiques, là, la fille électrique, là, le gars avec ses gaz.
C'est vrai que c'est Megaman.
Là, il y a une reporter de télé qui arrive à l'orphelinat parce que, là, je suis pas sûr, c'est parce que le Père Noël est là. Est-ce qu'elle penses-tu vraiment que c'est le Père Noël ou elle sait que c'est...
C'est ça, je disais plutôt, c'est pas clair. On dirait que les adultes pensent que c'est... Certains adultes pensent que c'est le Père Noël pour vrai, puis je me dis, mais dans quelle ville ils vivent pour qu'il y ait des adultes qui croient encore au Père Noël?
Et sûrement une ville du sud des États-Unis.
Moi, je sais pas. Ouais, au sud. Je pense qu'elle veut faire un reportage pour montrer, OK, le Père Noël est à l'orphelinat pour une levée de fonds, je sais pas trop. Mais tu sais, il y a comme une longue entrevue awkward que Blake n'a aucune idée quoi dire.
Moi, j'ai noté que c'était la version danseur gay du Père Noël. Un Père Noël avec des manches
courtes. Ah oui! Il n'est pas obligé d'être gay. Il peut juste être un danseur.
Danseur du 281 de Noël. C'est pour le spécial Noël, pour les petites madames.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est le Père Noël qui débarque dans un party de madame dans le temps des fêtes en faisant comme il paraît que la musique est pas assez forte ici. Ouais. Puis comment...
avec sa ceinture de cuir. Fait que Monsieur Frost, il voit ça à la télé puis il est pas content. Il y a Lenny qui réessaie la carte de crédit de Blake avec le verre de lait qu'ils empruntent. Puis là, c'est pas le bon pouce.
I'm sorry, that is your right thumb. Please place your left thumb on the scanner.
Il y a les méchants scientifiques qui kidnappent Lenny. Puis là, ils lui disent, c'est là qu'on apprend que c'est à eux autres qui doivent de l'argent. C'est à Mr. Frost qui doit de l'argent. Puis il lui dit d'arrêter d'attirer l'attention vers l'orphelinat parce qu'il veut le fermer. Puis on ne sait pas pourquoi il veut le fermer ou il veut l'acheter, whatever.
À ce moment-là, on ne le sait pas.
Ouais, c'est ça. Ça va venir plus tard. Il y a les méchants scientifiques qui brisent la vitre, une vitre de l'orphelinat avec une tête de statue, la tête de statue qu'ils ont arrachée plus tôt. Puis Blake, qui met sa tuque de Père Noël, puis il dit « Ah là, je vais leur péter à gueule. » Puis une petite scène de combat, Monsieur Blight se bat avec un stéthoscope, comme des nunchaku, là.
Ouais, qui ont crissement en mode kung-fu.
Ouais, c'est comme... pour vrai, les petites scènes de combat, s'il y en avait eu plus dans le film, ça aurait été plus pardonnable. Tu sais, c'est divertissant. C'est juste que les scènes de combat, il n'y en a pas beaucoup, puis sont décevants, sont pas longues, en fait.
Je vais te contredire là-dessus, Joël. Je trouve que ce qui manquait dans ce film de Noël-là, c'est des scènes qui font Noël. Parce que des scènes de combat, il y en avait une puis une autre en esti.
Ouais, mais non, mettons un film avec Hulk Hogan de Dash Matin à des combats cheap. Pas des scènes émouvantes de Noël. Là,
puis, non seulement je vais te contredire, mais je vais te faire un Joël.
Oui, vas-y.
Parce qu'il y a une scène que tu as skippée, je pense, à l'église avec la petite fille.
Ah, quand elle chante.
La petite fille qui chante. Oh. Je sais pas si t'as omis volontairement d'en parler.
Oh. Ouais, ouais.
Angel baby, my Valentine,
time. Avec un tilt-up vers les vitrailles, vers les vitraux, en fait.
Les vitraux qui brillent, puis on sait pas pourquoi, elle dit que c'est des fées.
Ben, elle dit c'est pour réveiller les anges qu'il y a dans les vitres.
Okay? Puis là, elle chante, puis là, elle a l'air de réveiller quelque chose, mais on dirait que la vitre, à part de super belle comme magique, c'est ce changement d'éclairage-là dégueulasse. Puis là, tu fais, OK, elle a réveillé les anges, puis on n'entend plus jamais parler.
Ouais, mais c'est parce que c'est les cristaux qui brillent, spoiler.
C'est les cristaux qui brillent. C'est les indices des cristaux. Quand elle fait ça, ça fait ça. Donc, OK, mais quand même, la relation entre le chant puis ça,
J'ai pas compris, ça prendrait un
sens. Fait que fausser très fort, ça réveille des cristaux.
Je m'étais pas rendu là dans ma lecture.
Moi non plus.
Là, on se rend compte que Taylor, un des petits gars, il a disparu. Puis le Blake, il se doute, je sais où est-ce qu'il est. Puis il s'en va au manoir d'un M. Frost. Je sais pas comment il a fait pour savoir qu'il était là.
La magie de Noël.
Ouais, c'est ça. Il trouve Taylor dans les buissons qui fait une tentative d'assassinat avec son slingshot, on dirait. Il veut tirer son slingshot à travers la vitre. En tout cas, c'est. Bon, c'est un petit gars pas très brillant.
Une future police.
Peut-être.
En fait, on apprend qu'il y a une voûte sous l'église de l'orphelinat. Les enfants, ils connaissent une partie de la combinaison, puis Blake, il connaît le reste de la combinaison, mais il ne sait pas pourquoi. Fait qu'il ouvre la voûte.
Où c'est qu'ils ont trouvé cette combinaison-là, les enfants?
Ça, j'en ai aucune idée.
C'est pourquoi juste la moitié?
C'est des hackers. C'est la magie de Noël.
L'argument de « Ouais, mais c'est un film pour... » Tu sais, il y a comme un argument qui revient souvent « Ouais, mais c'est un film pour enfants. »
« Papa devenu lutin, c'est un film pour enfants. »
Non, c'est un film pour les épais.
Je pense qu'à l'avenir, on va appeler ça l'argument Dominic Adams.
Exact. Ouais.
Papa est devenu un lutin, le réalisateur. À chaque fois que le monde chialait contre son film, il disait « Ouais, mais c'est un film pour les enfants. »
Ouais, exact.
J'ai présenté mon film devant plein d'enfants, puis ils ont aimé ça.
Boing, 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 boing.
Je regarde, c'est un peu ton argument pour Mac et moi. Là. C'est un film pour enfants. C'est bon.
Je
repars pas là-dessus. Tu l'as expliqué dans l'épisode, c'est beau.
Non, mais Chris, tu t'en reparles. Là, c'est ça, je vais l'expliquer.
T'as le droit de l'aimer, le film.
C'est pas un film aussi mauvais qui a été peinturé dans un coin.
Je pense que c'est un bon film.
Ah ben, Mac and Me, c'est correct, là. Tu sais, la scène comme ça, là.
Pardon?
Écoute, quand t'as 8 ans...
Ah, Antoine, il est parti.
C'est pas un bon film, mais...
Ah, c'est un film pour enfants. Il
existe quand même plus que hot. Ça.
Non, mais tu sais, mettons, là, on vient d'écouter un film pour enfants, techniquement. Mac and Me est bien meilleur. Là.
Fait qu'il y a une grotte pleine de cristaux de piézoélectricité. Là. C'est quoi le terme?
Piézoélectrique.
Moi, je connais ça, l'électricité.
Fait que ces cristaux spéciaux-là, ça vaut cher. Puis ça existe pour vrai. J'ai fait mes recherches, mais ça brille pas dans le noir comme ça. Ça explose pas non plus.
Ça explose-tu? Non, OK.
Ça explose pas. Non, ça fait juste comme ça peut transmettre l'électricité, mais c'est pas des...
C'est un conducteur, dans le fond.
Ouais, ben je sais pas. Il faudrait demander à un spécialiste.
Je pensais que tu avais cherché. C'était toi le spécialiste des quatre en ce moment.
J'ai fait une recherche de 5 secondes à peu près là-dessus. Ça a bol, après-midi. Dr. Blight, qui s'infiltre dans l'orphelinat. Puis là, il y a Blake qui lui court après jusqu'en haut du clocher de l'église. Puis il y a un gros combat, encore un combat avec une grosse canne de bonbons. Il y a Blake qui s'est poussé en bas par un Père Noël.
Mécanique dans le top d'un clocher qui s'active juste quand ils ont passé devant, genre, là, tu sais. Ouais. C'est comme les décorations que tu mets sur ton perron, tu passes devant, puis il fait comme « Hey, hey, hey! » Mais c'est ça, mais sur le top, tu sais, ça n'a pas rapport.
C'est quand même spécial qu'il y a un gars qui est capable de retenir un camion, tu sais, avec une chaîne, mais il se fait pousser en bas par une décoration de plastique.
Ouais.
Il a été surpris, là. Il a été surpris. Ouais.
Puis, je l'ai aussi regardé au ralenti cette scène-là pour voir la doublure qui tombe, tu sais. Mais le Père Noël, c'est quelqu'un dans un suit, dans le plan rapproché, comme. Okay. Genre, tu vois des yeux, il y a comme un masque. C'est pas la décoration non plus, là. Parce que c'est un cascadeur qui tombe de cette place-là aussi. Fait que, tu sais, c'est comme. En tout cas, vous en regarderez.
Blake, il tombe dans un camion de vidange.
Évidemment.
Métaphore de la carrière, un peu.
Évidemment, carrière, aussi, Oui. Il tombe dans le camion de vidange, un vidange qui est plus comme des boîtes en carton. Il n'y avait pas de vitre cassée dans ces sacs à poubelles-là, ouais, parce qu'il tombe de haut en esti.
Mais il y avait un petit pot de poudre protéine de Blake. Là, ouais. Dit, oh, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au début du film, il dit « Je veux que ma face soit plus grosse sur l'emballage. » Puis il dit « Oh, ma face est encore trop petite. » Puis il s'évanouit. Puis il se réveille chez lui, dans son lit, dans son manoir. Puis là, il a retrouvé la mémoire.
Mais je trouve que, tu sais, comme il tombe dans le camion de vidange, tu sais, mais il trouve son produit. Mais ce qu'il aurait vraiment dû trouver dans ce camion de vidange-là, là, c'est la cassette de ce film-là. Ah, Santa Wetman, ça?
Ça m'apparaît une pas pire cochonnerie.
Tout le monde est triste à l'orphelinat parce que le Père Noël est parti. Puis là, on voit Madame Watt qui fait exploser la porte de l'orphelinat avec ses super gants électriques. Tous les méchants arrivent. Il y a Dr. Black qui met du Lysol partout pour désinfecter à cause de la COVID. Il y a M. Frost qui arrive dans sa grosse combinaison parce qu'il a peur des germes, on le rappelle. Il descend dans le sous-sol et M. Frost demande aux enfants d'ouvrir la porte de la voûte. Mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toute la combinaison. Puis là, il y a Martin Petit qui essaie de driller la porte.
You can't open it, can't you?
Oh yeah!
Oh yeah! Porte ouvre-toi, puis on le disait, porte ouvre-toi. Qu'est-ce que la porte, elle l'ouvrait?
Fait que Blake est chez lui, puis il est triste. Pis son employé cuisinier, il essaie de l'attaquer comme au début du film, puis Blake s'en crisse parce qu'il est down.
Il l'appelle Pierre.
Pierre, ben oui, c'est un Français, vu que c'est un cuisinier, évidemment.
Thanks, Pierre.
Fait qu'il y a Lenny qui appelle Blake en cachette. Lenny qui est encore à l'orphelinat. Il explique la situation de la voûte, puis ça ébranle Blake. Ah, puis je l'ai pas dit, mais les méchants, ils demandent aux enfants de miner. Ils leur donnent des petits casques, puis ils le font pas.
Puis les méchants dévoilent devant les enfants que s'ils sont là, c'est grâce à Lenny, le traître.
Ouais.
Puis les enfants vont traiter Lenny de Benedict Arnold, qui est un traître notable de la guerre de l'indépendance. You kill Benedict Arnold. Voir que les enfants, ils ont cette référence-là, le Cosme Vicky, là.
Ouais, c'est ça, la petite Elisabeth de 4 ans, c'est ça. T'es éduqué. Ouais,
Elisabeth.
La théorie du scénario écrit sur la poudre dans une soirée.
Ça tient toujours, ta théorie, Jean-François.
Ouais. Fait que Blake est ébranlé parce qu'après la situation à l'orphelinat, fait que là, ça le motive, puis là, cette fois, c'est personnel. Puis il dit à son crew:
Gentlemen, we have a mission.
Puis là, il part en mission avec son équipe formée de son butler, le chef cuisinier, son chauffeur, qui a un ranch comme arme. Puis il y a Martin Petit qui continue de driller. Puis il dit à l'autre scientifique, le Fu Manchu, Ed Leslie, Brutus the Barber. Il reste 5 minutes, puis le barber, il répond.
Hey, moi, je veux savoir, JF, t'as-tu vu ça aussi, qu'il y avait un dude qui ressemblait beaucoup à Martin Petit dans les Bizarroïdes?
Dans les Bizarroïdes, il y avait quelqu'un qui ressemblait à Martin Petit?
Non, en fait, dans les Bizarroïdes, il y avait Martin Petit, point.
Ouais, c'est ça, j'étais comme oui.
Je veux dire, dans le film, il y a un gars qui ressemble à Martin Petit de l'époque des Bizarroïdes. Puis Simon Chénier, avec Étienne Forêt de Noël chez Isidore, avait soulevé ça aussi quand ils ont fait la critique de Santa with Muscle.
Ah oui?
Puis Joël aussi avait remarqué
non,
ça.
J'ai pas, mon Martin Petit radar était pas là. J'ai
non,
pas
OK, c'est parfait. Ouais. Non. C'est Martin non. Petit là, comme bien avant les pêcheurs.
Ah, okay, ouais, okay.
Pour vrai, je me souviens plus du nom, mais c'est un acteur qui revient en plusieurs films. Je pense qu'il jouait dans Biodon. Ouais. Là, puis je pense qu'il jouait scientifique aussi.
Il jouait, oui.
We're all gonna die!
Clint Howard, il voit Blake. Il voit Blake et son crew rouler en char trop vite, un callback du début du film. Il y a une poursuite de char avec plusieurs chars de police. Puis là, j'ai noté que c'est la scène Mario Kart du film.
Oui.
Parce que Blake, il dit à Pierre de prendre sa vinaigrette, la vinaigrette de la marque de Blake, puis de la vider sur la route. Puis ça fait déraper les chars de police. Là. Puis il y a juste deux petites bouteilles, puis c'est comme de l'huile à salade qui dit, je sais pas qu'est-ce qu'il met dedans, il faut déraper des chars. Là. Ensuite, il lance de la poudre de protéines en arrière du char, puis ça fait comme un espèce de nuage de poussière, puis là, Clint Howard, il est complètement perdu, il voit rien, puis je pense qu'il s'arrête.
C'était malade que, tu sais, il sniffe cette poudre-là, puis là, il sort fucking musclé comme un peu, le genre, avec le rouah, puis il y a comme un. Il faut que Hogan mange cette poussière-là pour devenir aussi monstrueux, puis un genre de combat de titan, de Noël, tu sais, mais non, finalement.
Ça aurait pu arriver. Ça aurait été quasiment un bon film, mais c'est pas le cas.
C'est de la stine marde.
Il y a un policier qui sort en roquette. What the fuck?
Ah ouais,
on a parlé plus tôt que les policiers étaient crissement intenses et violents. Là. Un policier d'une petite ville de rurale là, du sud des États-Unis, mais ils ont des roquettes. Là. Il lance la roquette, puis il rate Blake, puis ça explose, ça fait péter le char du shérif.
C'est une roquette en CGI aussi. Là,
ouais, oui, ça, ouais. C'est lettre. C'est assez lettre, j'ai noté ça aussi. Puis là, vu que c'est un film pour enfants, Clint Howard, il est pas mort. Il est juste comme calciné. Avec ses dés en mousse qu'on met après le rétroviseur du char. Il y a ça autour de la du cou. Puis il y a quasiment les dents en piano, comme les Looney Tunes. Juste... Fait que Blake et son crew, ils vont à l'orphelinat pour sauver tout le monde. Ils mettent des câbles à booster sur la poignée de porte, un peu à la Home Alone.
Ouais, c'est ça, le moment, maman, j'ai raté l'avion en esti.
Ouais, c'est ça. Fait que, il y a le garde, il regarde dans l'œil magique de la porte, puis il voit Pierre, le cuisinier, qui sert d'appoint avec une espèce de
plateau.
Des hors-d'œuvre, des petites quiches, je pense.
Ouais, des petites quiches, ouais.
Oui. C'est quand même beaucoup de job, là. C'est une belle assiette. C'est beaucoup de job juste pour faire un piège. Mais ça, il y a ouais, plus juste.
J'ai noté, puis tu vois, Jean-Gab, c'est à ça que ça sert dans des films comme ça. C'est un piège, des quiches.
On a déjà juste expliqué, on a un running gag que les trois, on aille ça la quiche.
Ah, moi, j'adore la quiche, désolé. Les
gars. Ah, ouais.
En vrai,
mais c'est faux qu'on aille ça, mais il y a juste comme à l'époque pré-pandémie, où est-ce qu'on enregistrait dans notre décor à Shawinigan, la blonde à Jean-Gab, à un moment donné, a eu l'aimabilité de nous offrir de la quiche, puis les trois, on filait fucking pas pour ça.
On a tous enregistré
ça. Sonné comme « Hey, fuck la quiche! » Puis on est allé manger genre du Subway ou un affaire.
Ma blonde était tellement déçue, là, elle nous avait fait des belles quiches, puis toutes nous autres, comme trop méchants. Tu sais, quand
trois calices de marde, là, finalement. Ouais, là, vraiment, je suis pas fier de nous autres, cette fois-là. Fait qu'à chaque fois que je vois une quiche, je la filme, puis j'envoie ça au gars, puis je dis comme « Hey, voulez-vous de la quiche?
» Moi, j'étais malade quand j'étais petit à cause de la quiche, fait que ça m'a traumatisé. Là. Plus jamais je vais en manger. Je suis, c'est bon, mais...
Oui, c'est mental, problème. C'est des œufs, calice.
Ouais, hein, mais tu sais, c'est pas mon premier choix. Ça ou du IW? Je pense que c'est ça qu'on allait manger. C'est
oui,
midi.
C'était du IW, je pense. Bon burger!
C'est quand même bizarre, là. Imagine, là, OK, ça sonne chez vous, ding-dong. Là, tu regardes dans l'œil magique, il y a un gars avec un plateau, il y a 2-3-12 pouces de Subway, puis il te montre ça, puis il est habillé en chef. Tu réponds-tu à la porte? Tu fais « Oh, des sous-marins! » Mais non, si tu fais « What the fuck?
» Ouais.
Moi, je suis pas futé de même. J'aime ça le Subway, pour vrai. Je réponds. Je suis comme « Ah ouais, donne-moi le Subway. »
Dis que je vais le manger. Laisse-moi
t'aimer. Le garde épais se fait prendre, puis se électrocuter par la poignée, puis je pense qu'il perd connaissance. Fait que là, tout le monde, l'équipe de Blake s'infiltre.
La scène finale, essentiellement, c'est Hulk Hogan avec sa gang qui font le tour des boss, on va dire. Là, qui font
ouais,
le tour
ça,
de l'équipe du méchant.
Il élimine les minions un par un. Puis Blake, il garoche M. Vile par la fenêtre, il tombe dans une crèche. Puis là, il y a un plan, tu vois vraiment des fausses dents. Là. Et comme un plan, tu vois vraiment qu'il y a des fausses dents LED. Là.
Des fausses dents atypiques, je pense.
Ouais,
atypiques,
ouais.
Je veux juste dire, c'est chiant tabarnak s'il tombe là-dessus, puis c'est ses vraies dents.
Non, non, mais tu vois qu'il y a une couche par-dessus, tu vois que ça marche pas. Là, ça marche
on
pas.
Rit pas de ça, les dents atypiques, OK?
Carniviande!
Il y a Blake qui se fait pogner par Mme Watt avec ses gants électriques. Puis elle lui dit, tu vas pas frapper une femme. Puis là, il y a Lenny qui est comme au balcon de l'église.
Mais moi,
il
oui.
Dit, lui, non, mais moi, oui. Puis il verse une chaudière d'eau sur Mme Watt. Puis l'eau avec l'électricité, ça fait que t'es électrocuté. Puis elle meurt, entre guillemets, elle meurt pas. Parce que ça fait
en accéléré aussi.
Ouais, ben oui, pourquoi pas. Ça
fait
en
accéléré.
Il y a Blake qui défonce une porte, la porte d'une pièce où est-ce qu'il trouve Leslie et Clayton. Clayton, il dit, t'aurais pu juste cogner.
Well, all you had to do was knock.
Ça veut-tu dire qu'il n'était pas enfermé? Ils auraient pu juste comme crisser leur camp ou appeler la police. Il n'y a personne qui appelle la police.
Mais non, ils veulent les gonner tout le temps.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu vas appeler quelqu'un qui va te faire sauter au lance-roquettes.
Ouais, c'est ça.
Il y a un reveal à un moment donné là-dedans, Joël. Il y a un reveal où on comprend que le personnage de Hulk Hogan puis le personnage du méchant, les deux, ils ont été élevés dans ce pensionnat-là. Ben,
c'est le pire lien par rapport de ce film-là. Ouais. C'est ça, là, j'ai écrit un gros « what the fuck ».
Ouais, c'est
ça. D'un, ça n'amène rien en plus. Là, je veux dire, ça amène « sweet fuck all » puis c'est pas intéressant. C'est comme pitcher. Là. Ah, ils ont été, ils ont été élevés là.
Ouais.
Puis aussi, ça l'explique comme leur désir inconscient. Voici pourquoi on est à l'orphelinat depuis tout ce temps-là. T'sais, c'est comme. Ah, puis en passant, notre film, c'est pas n'importe quoi. Là. Okay? C'est tout était lié. Là. Attention.
Oui, c'est ça.
Non, c'est tout bien lié. Là. Fait que, t'sais, mais non, c'est ta gueule. Là.
C'est de la stine marde.
Il y a Leslie qui confronte Dr. Blight dans la cuisine. Puis il y a petit Taylor qui est là, qui fait une jambette. Puis il tombe dans le congélateur.
Ouais! Oh!
Il y a Blake qui descend en sous-sol puis il confronte son vieil ami. Son vieil ami qui ça sert à rien que ce soit son ami. Là.
C'est drôle parce que dans le film, il y a deux moments d'amnésie. Tu sais, quand que Hulk Hogan se fait fesser la tête, puis une amnésie dans le passé qu'on ne le savait pas qu'il existait des deux personnages. Fait que c'est souvent amnésique. Là, c'est comme
ça fait trop longtemps fait qu'ils ont oublié. Mais pourtant, c'est deux. C'est les meilleurs chums.
Ouais.
Dans l'orphelinat, puis ils
ont oublié
pas
leur meilleur ami.
Ouais, c'est sûr. C'est juste, ça sert à rien dire que c'était juste forcé. C'est un peu
c'est l'argent qui fait ça, les gars. Quand que tu fais trop de cash, à un moment donné, tu oublies tout ton passé. Tu élimines tous les pauvres de ton passé. Puis tu viens juste avec des riches. Puis tu t'en vas en Jeep jouer avec des guns à paintball avec tes chums riches.
Ouais.
Puis contre la police. Contre la police.
Il y a Martin Petit qui réussit à ouvrir la porte de la voûte. Puis, s'ensuit un combat final entre Frost et Blake qui se battent avec des longs cristaux comme des épées.
De Star Wars, là, c'est très, très Star Wars. En fait, là, moi, j'écris que c'est comme un combat d'épées laser, mettons. Puis là, je me suis mis comme un peu à divaguer dans ma tête sur Star Wars parce que, tu sais, les épées laser, ce qui fait qu'un laser, c'est des cristaux qui ont certaines propriétés puis une certaine provenance. Là. Fait que je me suis dit, c'est peut-être comme c'est comme la voûte où que tous les cristaux pour faire des épées laser, ils sont. Fait que c'est pour ça que c'est comme hyper convoité que ça vaut cher.
Ah, c'est dans l'univers de Star Wars.
C'est comme les prequels de prequels. Ça se passe. Non, mais c'est dans le passé, Star Wars. Là, c'est dans le présent.
Ah, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, dans l'espace, tu peux voyager dans le temps. On sait pas.
Ouais, puis pourquoi est-ce qu'ils voulaient avoir les cristaux là? Puis tu sais, le magasin de souliers qu'ils voulaient avoir là aussi, au début du film.
Oui.
Pensez-vous qu'il y a des cristaux en dessous du magasin de souliers? Ou,
peut-être.
Ouais, en fait, je pense que c'est dit dans le film, mais il y a des cristaux. Cette mine-là s'étend en dessous de tout le quartier. Puis c'est pour ça que le méchant essaie de prendre possession de chaque secteur de ce quartier-là. L'orphelinat, le magasin de souliers.
Ouais, mais ça serait vraiment facile d'aller voir ce monde-là, faire « Hey, je vous achète votre business tel prix, puis vous allez déménager. » Puis
Mais en vérité, de ce que je comprends, il aurait pu prendre possession de une de ces propriétés-là, puis avoir accès à toute la grotte.
Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça.
Puis Leslie qui arrache un tuyau d'air, le tuyau d'air de la combinaison de Frost. Puis là, il capote, il est défait parce qu'il n'y a plus d'air, mais il se rend compte que finalement, c'est correct, là, la COVID, il a survécu. Pas besoin de masque, Esti.
Pas mettre des masques! Esti, il pognerait plus rien! C'est comme ça que tu vas tomber malade, tabarnak! Allume, Esti!
Tout se met à shaker parce que les cristaux vont exploser, fait que là, tout le monde s'enfuit. Ça va péter! Tout le monde sort dehors, puis là, l'orphelinat implose. Là, avec l'électricité.
Ouais, c'est belle destruction d'un modèle réduit. Là.
Ouais.
que c'est un modèle réduit qui se décalisse.
Ouais. Clint Howard, il arrive dans son char calciné, qui fonctionne encore, parce que c'est drôle. Puis les méchants scientifiques sont tous arrêtés, mais pas Blake et sa gang. Tu sais, les policiers, ils savent. C'est eux autres, les méchants. On le sait. Ils savent, somehow.
La magie de Noël.
Dr. Blight, qui était congelé, qui a survécu à l'implosion.
Puis il est gelé aussi, là.
Il est congelé, oui.
Il est congelé, là.
Puis Blake fait une bonne joke.
I guess we'll have a chance to defrost himself.
Ouais, on est crampé. Les enfants sont tristes à cause que l'orphelinat est détruit. Fait que Blake, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, ben, ils invitent à venir vivre chez lui. dans son manoir, évidemment. Puis là, tout le monde peut s'amuser avec des jouets, puis ils peuvent espionner les scientifiques en prison.
C'est en face de la prison, là. Avec... Oh, il est quelle heure? Oh, c'est le temps de regarder dehors. Puis là, il regarde avec un télescope, puis là, regarde genre les méchants en train de cleaner la place.
C'est pourquoi qu'il avait besoin de mettre ça, cette scène-là? C'est-tu pour montrer, regardez, ils sont pas morts, ils sont juste en prison. Ça servait à rien.
Fait que là, il n'y a pas grand chose qui servait à quelque chose dans ce film-là, personnellement.
Ouais. Fait que Blake, il dit ho ho ho, puis il lance sa tuque de Parnell sur un espèce de buisson, puis là, ça zoom in sur la tuque de Parnell pour nous rappeler que c'est un film de Noël parce que ça paraissait pas. Puis c'est la fin du film.
Fuck non.
On a passé à travers.
Mais ce film-là a été produit, coproduit par Jordan Belfort, qui est le gars dans The Wolf of Wall Street. Là,
exact, le vrai Wolf of Wall Street, le véritable. Ouais. Ça m'a surpris, ça. Je ne savais pas qu'il avait produit. Il a produit d'autres films aussi, là, mais que je connaissais pas.
Un autre film, mais ça a vraiment l'air d'une façon de blanchir de l'argent. Là.
Probable. Je savais pas qu'il avait produit d'autres films, par exemple. C'est-tu quelqu'un qui a des titres?
Un autre film, un film d'action vraiment pas bon.
Ça peut être n'importe quel film d'Hulk Hogan.
Il y a une dizaine de films, je pense, que coproduit, fait que, mais c'est juste Santa Juan Morceau.
Ah, Chanel! Les gens qui nous écoutent en auto, il y a un chien qui vient de popper dans la vidéo. Belle Chanel!
Fait que, aviez-vous des fun facts ou des petits trucs à ajouter? Des petites
informations? Moi, j'ai noté que le réalisateur, John Murdovsky, je ne sais pas si on l'a nommé depuis le début, je ne suis pas sûr, c'est un bénévole pour une ligne d'appel de prévention du suicide. Puis j'imagine qu'il s'est engagé là-dedans parce qu'il se sent mal, parce que tout le monde a envie de se tuer après avoir écouté son fils.
I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide. How could you have done this? How could you have committed suicide?
Je veux juste dire, Don Stark, qui joue Lenny dans le film, qui est dans That 70s Show, fait aussi la voix de Tucker le singe dans Monkey Up.
Tucker le singe, c'est-tu comme un des frères... la famille.
Je pense que c'est un des frères du singe. Je me souviens plus du nom du singe principal.
Celui qui pète. Dans Monkey Up.
Voici pour la note, Joël.
Ben ouais, on va commencer par toi, Anto.
Ouais, moi, ça va être un -2.5.
OK.
Puis je pense que tout a été dit pendant le film. Tu sais, il y a eu quelques moments risibles, notamment la scène du lait. Hulk Hogan en général, je pense qu'il y a de quoi de drôle. On va y revenir. T'sais, déjà, ça fait trois fois qu'on en parle. On a parlé de trois ninjas plein midi à la foire. On a parlé de l'ultime menace. Là, on l'a pas dit au Québec, Monsieur Papa ou quand le Père Noël s'en mêle. Je pense que c'est ça. Ouais. Le titre québécois de Santa with Muscle. Je pense qu'on va revenir à Hulk Hogan. Possiblement que la prochaine fois, ça va être le petit Hercule. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Là. Tout ça pour dire que, tu sais, c'est pas risible au point que je le réécoute, mais ça mérite quand même un -2.5 parce qu'il y a quand même ces moments, là. Je veux dire, tu sais, Hulk Hogan qui tombe dans les vidanges, le fait qu'il y ait le charisme de il y a juste pas de charisme, ce gars-là. Là. Comment t'as dit ça, Jean-Gan? Le charisme d'une botte. Exactement, d'une botte. Ouais. Je cherchais un objet inanimé à plugger puis je trouvais pas, mais une botte. C'est bon. Ouais, -2.5. Je vais y aller pour ça.
OK, Jean-Gan.
OK, moi, je suis trop généreux, Anto. Moi, j'ai vraiment haï ce film-là.
C'est lourd, genre, là, je te comprends. Ouais.
Et pour vrai, là, c'est, vous le savez, les gars, je suis hyper attentif d'un film. Je suis celui souvent qui ramène, mettons, à l'histoire. Puis ce film-là, c'est la première fois que j'ai fait autre chose en écoutant le film. Il y a un moment donné, j'étais quand même, il fallait, ça me faisait penser à autre chose. Genre, je sortais du film, mettons, tellement que je trouvais ça pas intéressant. J'ai juste une page recto verso. D'habitude, j'en ai au moins 6, même pour un film plate. J'ai vraiment eu ça. Moi, c'est mon pire du cabanon. C'est vraiment mon pire.
C'est bon.
Ouais. Bon, okay. Qu'est-ce même les films poches qu'on a écoutés, je les écoutais. T'sais. Lui, j'ai pas été capable. J'ai mon esprit d'ailleurs à un moment donné.
Ben, c'est parce que t'avais le goût de jouer à ton Oculus, là.
Non, mais même pas. Tu sais,
ouais, ça a-tu de quoi avoir avec le fait que la gardienne de tes filles ne peut plus travailler à cause de la COVID, puis là, tes enfants sont à la maison, puis t'es brûlé raide?
C'est vrai que je suis brûlé.
Avant d'avoir bébé naissant, je disais souvent, « Oh, moi, je suis fatigué, J'avais aucune idée c'était quoi être fatigué.
Ouais, mais non, mais pour vrai, j'ai vraiment trouvé ça plat. Je vais donner un. Je pense que je vais lui donner un zéro.
OK.
Ouais, je pense que je vais lui donner un zéro. Tu sais, quand c'est rendu. Mettons, il y a une scène qui m'a fait rire, c'est quand la petite fille a fausse. Ça, ça m'a fait rire. Mais c'est la seule affaire qui m'a fait rire, tu sais.
Ah, c'est legit, Jean-Gab.
Crissement.
Je te comprends.
Ça n'avait pas de saveur. Ça avait non. Zéro saveur.
C'est donc ça. Zéro. OK, OK. Ouais. GF?
Moi, je donne une très mauvaise note à ce film-là parce que je trouve que c'est comme si tu te faisais raconter une histoire par un enfant qui avait oublié plein de détails et qui revenait tout le temps en arrière. Tu sais, c'est comme. Tu sais, genre, ouais. Fait que là, il y avait un gars, ben, lui, il était pas fin. Puis là, ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il aimait Noël, mais là, en tout cas, les gens étaient pas vite. Là, il y avait un millionnaire, lui, il aimait pas les. Ben, il y avait comme un genre de. Il était malade, là. Puis là, il torturait du monde pour acheter un enfant. Mais je vous étudie aussi que. Puis là, genre, là, il a oublié la mémoire. C'est l'autre personnage qui oublie la mémoire. Puis là. Là, il pense que c'est le Père Noël, mais il a oublié qu'il est ancien. Mais là, le lutin, lui, il veut voler l'autre. Fait qu'il fait semblant que c'est le Père Noël. Mais là, l'affaire, c'est que là, pis c'est comme ça, pendant une heure et demie, tu fais, aïe, c'est comme, il n'y a rien à s'accrocher, là. Ouais. Et c'est juste long.
Ça pourrait être que ça, l'épisode. Ça pourrait être que ça. Toi, ton résumé, ça va être ça, l'épisode. Ça va durer comme
ça. Une minute.
Regarde, c'est n'importe quoi, là. Je donnerais la note de Z.
Z,
c'est à éviter à tout prix. Genre, écoutez d'autres choses, faites d'autres choses de votre vie. Genre, même la. Regarde, peu importe ce que tu vas faire, c'est sûr que c'est meilleur que ce film-là. Là?
Fait que tu lui donnes un zéro, si je comprends bien.
Non, zéro, c'est comme juste, on dirait indifférent. Non, ça m'a mis en tabarnak. OK? Votre échelle, il marche pas, là. C'est un Z. Ça, c'est genre, on l'enlève de la liste, on détruit le film. Ça existe plus, OK? La seule trace qu'on a, c'est le podcast. C'est ça, OK? Genre, non.
Parfait.
C'est excellent.
Une première.
Oh, Chris. Ouais.
C'est bon.
Il y a des films qu'on ne peut pas mettre sur une échelle. Il ne faut juste pas les mettre. Il faut les enfouir. Ça, là, c'est un film.
Excuse-moi. Tu vas-tu revenir si on est...
On sent mal, là.
Non, on sent mal.
Non, non, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, regarde.
OK, donc Z.
J'ai perdu une heure et demie, par exemple. Ouais. C'est qui me redonne, hein, ces minutes-là?
Personne.
C'est brûlé.
C'est un service public que j'ai fait. J'ai écouté de quoi pour le dire au monde? Ne pas l'écouter.
Ne pas l'écouter, ouais, c'est ça.
Ne l'est pas.
Je vais peut-être aller du côté d'Anto, puis avec un moins 2.5, parce qu'il y a certains moments, c'est vrai que c'est plate comme film, c'est vraiment, je l'ai dit tantôt, c'est le moins bon qu'on a écouté dans le cabanon. Puis, Il y a des bons moments, mais ça m'a paru interminable.
Ouais.
Mais je pensais que c'était parce que je prenais des notes. J'arrêtais pas de faire pause pour prendre des notes parce que c'est moi qui racontais le film. Ça m'a pris, je pense, 3 heures d'écouter le film. Ouais. Là, je me rends compte que vous autres aussi, vous l'avez trouvé pénible et long, le film. Ouais. Fait que je pense
mais
que
moi, j'ai, mais surtout, moi j'ai pas tant trouvé. Ah, vas-y, Antoine, vas-y.
J'allais juste dire, moi qui n'ai pas fait de pause aussi souvent, tu sais, la scène du lait au ralenti avec la musique de 2001, Hulk Hogan qui se fait catapulter en bas par une espèce de Père Noël robot, la petite fille qui chante, Hulk Hogan qui casse la gueule devant des familles puis des enfants qui trippent dans un magasin comme « Ouais! » Tu sais, il y avait quand même, je te dirais, 5-6 scènes risibles là-dedans, mais ça n'a pas une grosse valeur de réécoute. Ouais. Là, on est loin de...
Moi, j'ai été vraiment déçu. Je m'attendais à quelque chose de vraiment hot. T'sais, moi, au début du film, là, quand le cuisinier il attaque Blake avec son marteau puis qu'il se bat avec le staff, tout ça, je trouvais OK, ça va être hot. Là. Je pensais que ça allait être ça tout le long du film. Finalement, non, ça s'étire sur ça déquétaine.
Ouais, c'est vrai.
Pas tant Noël, ça file pas Noël pantoute.
Qui risque non. Mais ça tombe bien
quand même.
Ça sort le 24 novembre.
ouais, c'est de circonstances. Mais c'est quand même un film de Hulk Hogan. Fait qu'il y a quand même un petit quelque chose, juste voir le train wreck d'Hulk Hogan, je pense que ça mérite. Moins 2.5, fait que c'est cela. Merci à la microbrasserie Les Grands Bois de nous fournir la bière, comme toujours. Merci également à Cuisinic. Allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram, si vous avez de l'inspiration pour vous faire rénover la cuisine. C'est bien bizarre comme phrase. Vous faire rénover, en tout cas. Pour, si vous avez une idée d'un meuble, une nouvelle table.
Comme, comme un show de Jean Héroldi. Vous faire rénover.
Vous faire rénover. Si vous voulez une nouvelle table ou un meuble custom, allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram. Suivez-nous sur YouTube, Facebook. Et si vous voulez nous encourager, on est maintenant sur Patreon. On vous offre du petit contenu exclusif. Un gros merci à ceux qui sont déjà là, qui nous encouragent depuis
Surtout, merci Jean-François.
Mais oui, merci JF.
De rien, c'est le fun.
C'est vraiment le fun. L'épisode sort le 24 novembre. Corrige-moi si je me trompe, mais le 12 novembre, les appendices sont de retour sur Tout.tv.
Ouais, exactement. Ça va être comme notre émission normale, mais sur Tout.tv, dans le fond. On va aller checker ça.
C'est un format plus court, un peu, je pense.
Un format plus court, c'est des 10 minutes, mais ça reste une émission à sketch. Sinon, sur Tout.tv, vous pouvez aussi me voir dans C'est comme ça que je t'aime, qui est une excellente série. Vraiment meilleur que le petit film de merde qu'on a fait.
Moi, je confirme. Ouais. Je l'ai écouté, puis c'est très, très bon comme série.
La série des créateurs de Les Invincibles, série noire. S'il y a des fans des Invincibles, série noire. Si vous n'avez pas écouté ces trois séries-là, Les Invincibles, série noire, C'est comme ça que je t'aime, c'est un game changer dans la série télé au Québec. No joke.
Ouais. Ben d'accord avec ça.
C'est de ça qu'on aurait dû regarder puis parler aussi, voyons.
Ouais, totalement, ouais.
Vous devriez faire ça, l'écouter au complet puis en parler après chaque épisode.
Non, mais c'est des bonnes affaires, ouais, t'as raison. Ouais. Ça serait bon. C'est
le fun pour tout le monde.
Après, tu joues dans quelque chose de poche, là, puis qu'on fasse une critique de ça.
Non. Ouais, je regarde ça, puis moi, non, ça me tente pas. Ouais. Non. Ah, mais attends, Jean-François, t'as joué dans... Non, c'est pas vrai.
Non, non. T'es aussi dans le podcast Tu me niaises.
Ouais, Tu me niaises, qui est disponible sur YouTube, un podcast avec les deux gars de Sexe illégal. Un podcast d'humour, je pense. C'est comme ça qu'il faudrait le qualifier, mais avec un engagement social de gauche, des fois très extrême.
On va dire un certain cynisme.
Mais super drôle quand même.
Tu me niaises!
Si vous l'écoutez, Tu me niaises, c'est disponible en audio aussi pour les gens qui écoutent juste audio. Par contre, c'est juste sur notre Patreon que vous pouvez avoir accès à la version audio.
Moi, j'étais un gros fan, en tout cas. Moi, j'étais un gros fan de Tu me niaises.
Ouais. Ouais, moi j'aime ça. Ben, les trois, on écoute ça.
En fait, j'écoute que ça, Esther. C'est avant, mettons. Quand c'est arrivé, ça a comme déplacé tout ce que j'écoutais, mettons. Là. Fait que là, c'est devenu le podcast que j'écoute en premier. C'est Tu me niaises.
Ben, c'est fin.
Ben, Tu me niaises, es-tu disponible en VR, mettons?
Ben, pour vrai, le scoop, mais oui, là, un jour, oui. J'ai des plans dans l'air. C'est juste que j'ai pas le budget, mais c'est parce qu'il faudrait que j'achète trois casques, tu comprends? Fait que là, je suis comme, on a pas assez d'argent, mais c'était, en fait, gars, je vais vous le dire, le scoop, là, c'était comme ça qu'on allait aller sur la Lune. Parce qu'on promet à tout le monde, on va aller sur la Lune, on va aller sur la Lune. À un moment donné, on va faire un épisode en VR 3D.
C'est-tu le prochain step du Patreon? Je pense, à 8000, vous achetez des ordis, puis à 15000, ça devient du VR, c'est ça?
Je pense pas qu'on va rester dans le VR tout le temps, mais on va faire des affaires spéciales comme ça.
Nice.
On voulait aussi inviter des bands pour faire des genres de captation de tunes live un peu. On voulait faire. On va faire toutes sortes de styles d'affaires, puis de tout le temps changer la formule aussi. C'est un peu ça le concept de notre podcast, de jamais rester dans qu'est-ce que c'est. Ça change constamment. Puis je pense qu'on a beaucoup de fun avec ça. Puis aussi, s'il y a du monde qui sont game de l'écouter visuellement, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup d'effets visuels, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau visuel, fait que vous pouvez checker là aussi.
Donc, messieurs, on va terminer là-dessus, puis on se revoit dans deux semaines avec un autre film de Noël qu'on va espérer que c'est meilleur que ça.
Ouais.
Salut! Ça sera pas difficile.
Non.
Bye! Salut.